Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Cette fois, les doutes sont exprimés par la Maison Blanche. Pour Donald Trump, le nombre de morts en Chine a été sous-estimé. Un rapport des services américains laisse donc clairement entendre que Pékin aurait menti. Des commentaires jugés indécents par les autorités chinoises. Alors que l'activité reprend doucement en Chine et que le pays redoute une nouvelle vague de contamination, l'Empire multiplie les initiatives pour venir en aide au reste du monde. Des masques, des soignants, des respirateurs envoyés en Europe, en Afrique et même aux États-Unis. Un déploiement qui est aussi stratégique pour un pays qui veut s'ériger comme un modèle dans la gestion de la crise. Alors la Chine a-t-elle menti sur la réalité de l'épidémie? Sort-elle fragilisée ou renforcée aux yeux du monde après cette crise? Comment se passe réellement la reprise économique? Chine, ça va mieux? Vraiment, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Valérie Niquet, vous êtes responsable du pôle Asie et la Fondation pour la Recherche Stratégique. Citons votre dernier livre, La puissance chinoise en 100 questions, publié aux éditions Talendier. Pascal Boniface, vous êtes géopolitologue, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je rappelle votre livre, 50 idées reçues sur l'état du monde, publié chez Armand Collin. Avec nous en ligne ce soir, en direct de Pékin, Frédéric Lemaître, vous êtes correspondant à Pékin pour le journal Le Monde. Votre dernier article est intitulé « Coronavirus, doute sur l'estimation du nombre de décès en Chine » que l'on peut retrouver encore sur le site de votre journal. Enfin, le professeur Antoine Flao, vous êtes épidémiologiste, vous enseignez à l'Université de Genève, vous dirigez l'Institut de Santé Globale. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, je vous la pose à vous, Valérie Niquet, la Chine a-t-elle menti?
Je ne sais pas si le moment correspond à ce type de système politique où la manipulation de l'information, la propagande, ce qu'on appelle en Chine, traduit en anglais maintenant, enfin ou en français, la publicité, fait partie du fonctionnement du système. Les informations sont contrôlées, les statistiques sont toujours politiques, donc on ne peut pas dire qu'il y a un chiffre qui serait totalement objectif en Chine. Il faut que ce chiffre corresponde, ça va de la croissance, quand on annonce 6%, ce sera 6%, même si on l'annonce à l'avance, et quand on dit il y a eu 3200 ou 3500 morts en Chine à cause du coronavirus, c'est très très difficile de revenir sur ces chiffres officiels qui sont la ligne officielle, donc on ne peut pas aller contre.
Ça veut dire quoi, on ne peut pas aller contre? Ça veut dire qu'on ne peut pas les vérifier?
Ça veut dire que d'abord, on ne peut pas les vérifier. Ce serait très bien s'il y avait des commissions internationales indépendantes qui pouvaient aller véritablement vérifier ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Ce serait très utile pour nous aussi. Ça n'est pas le cas. Ça, apparemment, l'OMS ne joue pas ce rôle-là non plus. Mais l'autre élément, c'est que même les Chinois ne peuvent pas non plus, ceux qui sont parfaitement conscients des problèmes, ne peuvent pas non plus dire la vérité parce qu'ils risquent tout simplement leur place. Beaucoup d'officiels qui ont voulu dire ce qui se passait se sont trouvés, ont disparu brutalement. Et un seul indice, c'est que autant Xi Jinping, le président qui s'est rendu à Wuhan, disait qu'on s'approchait de la fin de l'épidémie et que ça allait beaucoup mieux, Li Keqiang, le premier ministre, lui, a donné comme consigne aux autorités locales de dire toute la vérité. Ce qui signifie qu'en fait, ces autorités, sur le nombre de morts, sur la manière dont se passe la sortie du confinement, et ça, c'est essentiel encore une fois, les informations ne sont pas fiables. Elles sont peut-être en partie vraies, mais on n'a aucune garantie qu'elles soient fiables.
Frédéric Lemaître, sur cet aspect-là, il y a des images qui ont beaucoup fait réfléchir en France et en Occident. Ce sont ces images d'urnes funéraires où certains ont essayé de compter ce qu'on voyait sur ces photos en essayant de faire une corrélation avec le nombre de morts officiels à Wuhan. Je le rappelle, 11 millions d'habitants, 2535 morts officiellement.
Oui, alors il y a eu des chiffres qui sont parus. Il y a effectivement des photos où on voit des gens aller chercher des urnes dans des crématoriums. On dit qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de gens qui attendent. Et il se trouve que c'est l'ambassadeur de Chine à Paris qui a donné une explication qu'il faut quand même prendre en compte. Il y a à peu près 5000 décès par mois à Wuhan, ville de 11 millions d'habitants. Ça correspond à peu près à l'Île-de-France. Donc c'est par mois. Pendant deux mois de... Du 23 janvier au 23 mars, les crématoriums ont fonctionné, mais les gens n'ont pas pu aller chercher les urnes. Donc, que maintenant, il y a à peu près 10 000 personnes qui doivent aller chercher les urnes, ce n'est pas totalement absurde. Et ce qu'il dit est à prendre en compte. Cela dit, il est évident aussi, c'est ce que dit Valérie Niquet, que les responsables chinois ont sous-estimé l'importance du virus. Ils ont donné 8 définitions de ce qu'était un malade du Covid-19 en 2 mois. Et il y a des tas de gens qui sont morts depuis fin janvier à Wuhan et dans le Hubei, mais dont la mort n'a pas été attribuée au Covid-19. Mais est-ce vraiment différent dans d'autres pays, dont le nôtre? Je n'en suis pas si sûr.
En tout cas, les autorités chinoises ont été profondément agacées hein, de cette polémique. Ils ont dénoncé la propagande des médias occidentaux. Pascal Boniface.
Alors, quand c'est Trump qui fait cela, bien sûr, sa crédibilité est moindre. Mais lorsqu'il y a des enquêtes journalistiques, c'est différent. Le problème, c'est que pour l'instant, il est trop tôt pour savoir quelle est l'ampleur de le mensonge, de la dissimulation, de la sous-information. Les autorités locales ont toujours tendance, effectivement, à ne pas faire remonter les mauvaises nouvelles parce qu'elles en sont tenues souvent responsables. Mais je pense que même si le régime chinois, on le sait, n'est pas le meilleur en termes de transparence, on ne peut pas, sur le long terme, cacher la vérité.
Le problème, c'est que c'est grave.
Oui,
Je me permets de vous couper. Le problème, c'est que c'est grave parce que toute la stratégie de confinement et la façon dont les pays occidentaux se sont préparés à cette épidémie était indexée sur ce qui s'est passé en Chine et sur les chiffres qui étaient communiqués.
Alors, je crois qu'il y a deux choses à distinguer. Il y a la sous-évaluation du nombre de victimes pour dire que le régime marche bien. Il y a ensuite la sous-évaluation de la contamination et des processus de contamination qui peuvent avoir des effets extrêmement graves et conséquents pour le reste du monde. Mais comme la Chine est effectivement en période de communication, de propagande, en se présentant comme ceux qui aident à lutter contre le virus, si au bout du compte on apprend que par leur dissimulation d'événements, de réalités, ils ont contribué à la propagation du virus, ça sera un effet boomerang terrible pour la communication chinoise. Donc là, c'est trop tôt, je crois, pour le dire. Je pense que de toute façon, on le saura parce qu'il ne sera pas possible de le
Est-ce qu'on
cacher.
le saura?
Oui, parce que je pense qu'il faut. Et là, ce sont plutôt les experts médicaux qui vont le dire. Ce n'est pas les politologues qui peuvent répondre à cette question-là. Ce sont les experts médicaux qui pourront dire, oui, là, effectivement, en reprenant l'étude de cas, l'étude de la contamination, eh bien, on peut voir qu'il y a eu dissimulation de faits qui ont contribué à la propagation du virus.
Et on voit bien que c'est devenu un sujet diplomatique, puisqu'on a parlé de la réaction de Washington sur la foi d'une note des services américains, mais il y a aussi une réaction de Boris Johnson qui a dit la Chine va devoir rendre des comptes, et il aurait évoqué l'expression d'État paria. Je me tourne vers vous, Antoine Flahault, pour avoir votre avis sur cette problématique-là, parce qu'au tout début de la crise, on avait des scientifiques sur ce plateau qui nous disaient c'est formidable parce que les Chinois sont très transparents sur les données scientifiques.
Alors, ce qui est formidable, c'est que les Chinois sont très bons en termes de communication et de propagande, ce qui a été dit. En réalité, le 1er février, une équipe de Hong Kong, d'épidémiologistes de Hong Kong, a déjà remis très fortement en cause les chiffres qui étaient les chiffres officiels. Pour vous dire, à cette époque-là, le 1er février, 12 000 cas étaient notifiés par la Chine. Je parle de cas de Covid, je ne parle pas de décès ici. Et Hong Kong, Gabriel Lang, qui est un collègue que je connais bien, qui avait été très très proéminent pendant l'épisode du SRAS, donc qui connaît extrêmement bien ce type de problématique, a pu, par modélisation mathématique, s'apercevoir que ce n'était pas possible qu'il n'y ait que 12 000 cas à ce moment-là, qu'il y en avait probablement 75 000. Donc déjà, la controverse sur les chiffres, elle remonte à il y a très loin, finalement. Et quand quelqu'un ici, sur le plateau, a dit on saura la vérité, oui, on pourrait la savoir. Et moi, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi les États, l'Europe, la France, pourquoi elles n'exigent pas de la part de la Chine de conduire ce qu'on appelle des enquêtes de séroprévalence, c'est-à-dire où on va regarder qui a été infecté par le virus, par ce coronavirus en Chine, par exemple dans la ville de Wuhan, en testant les anticorps. On n'a pas besoin de faire un test sur une très large échelle. Hein. Prenez 1 000 Chinois de Wuhan, tirés au sort, mettez une commission complètement indépendante qui permet de faire ce test et on saura complètement répondre à cette question. On saura si... Parce que vous savez, s'il y avait 40 000 morts au lieu de 3 000 à Wuhan, ce qui est tout à fait possible, si les urnes montrent qu'il y a peut-être 40 000 morts quand on défalque les 5 000 par mois, alors ça voudrait dire qu'il y a 4 millions, il y aurait probablement 4 millions de Chinois de Wuhan qui auraient été infectés par le virus. Et ça voudrait dire que probablement la moitié de la population de cette ville aurait été infectée par le virus, ce qui est tout à fait possible, mais c'est très très important de le savoir.
Frédéric Lemaître, même à bas bruit, même en Chine, avec les contraintes qu'on imagine naturellement sur la communication et sur l'information, est-ce que ce sujet-là a émergé ou pas du tout sur la contestation ou sur les soupçons autour du nombre de victimes ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des débats depuis janvier et même dans les milieux médicaux depuis fin décembre. Évidemment, le débat était très fort vers le 7-8 février, quand le fameux docteur Li est décédé, alors que ça avait été un des lanceurs d'alerte. Et là, il y a quand même des millions de Chinois sur les réseaux sociaux qui ont trouvé sa mort scandaleuse, parce qu'ils disaient « il a eu raison, il a alerté le premier ». Parmi les premiers, et il est mort. Oui, il y a des débats. Et là, on voit bien que même actuellement à Wuhan, qui est en train de s'ouvrir très partiellement, il y a des gens qui contestent les chiffres officiels. Oui, bien sûr, il y a des débats.
Valérie Niquet.
Oui, il y a des débats, de la contestation qui est encore une fois très contrôlée sur Internet avec des épisodes de plus ou moins grande ouverture. On a vu au début qu'on laissait s'exprimer des choses, sans doute parce qu'il fallait laisser une soupape de sécurité. On a vu aussi des gens qui donnaient des chiffres ou qui critiquaient les décisions des autorités centrales et pas uniquement locales et qui ont disparu du paysage Internet en Chine. Et ce contrôle, il est absolument... On disait tout à l'heure, c'est ça, il faudrait vraiment que la Chine accepte une commission internationale totalement indépendante, ce qui évidemment risque d'être refusé par Pékin, qui met toujours en avant la souveraineté nationale. Mais tant que la Chine n'a pas fait la preuve de l'indépendance totale de sa capacité à rechercher et à publier les véritables chiffres, et encore une fois, avec des conséquences globales, c'est-à-dire que c'est déjà dramatique pour les Chinois eux-mêmes, mais c'est dramatique pour le monde. L'économie entière s'est arrêtée. Et il faut rappeler aussi que la Chine, on sait les choses. Bien sûr, on sait les choses. Le premier cas en Chine dont on parle, ce serait le 16 novembre. Début décembre, le docteur Li donne l'alerte. Fin décembre, la Chine commence à dire à l'OMS qu'il y a un problème de pneumonie. On ne sait pas si la Chine a véritablement dit tout de suite qu'il y avait une transmission d'homme à homme. Ça a été nié pendant des semaines à Wuhan. Ensuite, le maire de Wuhan a dit que lui ne pouvait rien publier parce que tant qu'il n'avait pas l'autorisation de Pékin, il ne pouvait rien dire. Il a été démis de ses fonctions, remplacé par un proche de Xi Jinping. Et ça n'est que début mars, que l'OMS a déclaré une pandémie. Alors évidemment, ils avaient déclaré quelques jours à la fin du mois de janvier, ils avaient déclaré qu'il y avait un état d'urgence médicale, mais on voit qu'il y a du retard tout le temps, ça on le sait. Les résultats de l'ouverture de la Chine, de la réouverture de la Chine, c'est évident que s'il y a des victimes d'une manière massive, on le saura, bien sûr. Mais c'est trop tard.
Tout et vous parlez de l'OMS, on se souvient aussi des communiqués de l'OMS pour dire que la crise était très bien gérée.
Voilà.
Il y avait eu cette visite
du patron
de l'OMS à Pékin.
Et surtout, qui reprenait la thèse chinoise, qui était de dire surtout ne fermez pas les frontières, laissez tout ouvert. Et c'est discriminant contre la Chine d'interdire les voyages.
Mais juste avant de passer au premier reportage, vous pensez vraiment, là, tout l'Occident, le monde entier est en train de gérer l'urgence de la crise. On n'en est pas à demander des comptes aux Chinois. Mais qui pourra demander des comptes à la Chine ?
L'ONU.
L'ONU.
Le Conseil de sécurité. Alors, la Chine fait partie du Conseil de sécurité, mais il me semble que le G7, la Chine fait partie du G20, mais je pense que la communauté internationale, ça pose vraiment la question. On parle des problèmes du multilatéralisme. Le multilatéralisme ne peut fonctionner que s'il y a un partage réel de valeurs communes. Il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas bien. On va beaucoup critiquer les États-Unis, mais pour le moment, ça ne sont pas les États-Unis qui sont responsables de cette épidémie qui frappe le monde d'une manière, encore une fois, catastrophique.
Pascal Boniface.
Aucun pays n'accepte une inspection internationale sur ce qui se passe chez lui. Et ce n'est pas propre au système chinois. Le système chinois est à part, bien sûr, mais s'il y avait une crise, le Royaume-Uni refuserait qu'il y ait une enquête internationale sur la façon dont Boris Johnson a géré la crise de coronavirus. Donc c'est la règle de souveraineté qui est peut-être encore plus sensible en Chine qu'ailleurs. Mais en tous les cas, le fait qu'il y ait une inspection internationale sur un sujet aussi sensible, tout pays mis en cause le refusera.
La solidarité, ça ne s'instrumentalise pas. Ces mots sont ceux de la secrétaire d'État aux affaires européennes françaises, Amélie de Montchalin, un brin agacée par la mise en scène de l'aide chinoise. Pékin, mis en cause sur le décompte de ses victimes, on l'a entendu, affirme avoir maîtrisé le virus et se déploie pour proposer son aide et le fait savoir. Juliette Perrault et Christophe Roquet.
La Chine en sauveuse du monde. C'est le message de cette vidéo publiée par un quotidien proche du régime. Du matériel envoyé en nombre à des dizaines de pays. Et des dirigeants européens reconnaissants en Italie, en Espagne ou encore comme ici, en Serbie.
Merci infiniment à mon frère et ami le président Xi Jinping. Je l'attends en Serbie. Des centaines de milliers de personnes vont l'accueillir quand il viendra dans notre pays. Des centaines de milliers de personnes et mieux que n'importe où dans le monde, avec plus de passion et plus d'émotion que nulle part ailleurs.
La Chine célébrée, mais aussi critiquée, notamment sur son bilan officiel du nombre de morts de l'épidémie. Car depuis plusieurs jours, ces images sèment le doute. De longues files d'attente devant les crématoriums de Wuhan et la livraison de milliers d'urnes funéraires qui suggèrent que le nombre de décès serait bien plus élevé qu'annoncé. Des clichés qui interpellent jusqu'au président américain.
Les chiffres semblent un peu sous-estimés, et je suis gentil quand je dis ça, par rapport à ce que nous avons vu et à ce qui a été rapporté.
Même réaction du côté du Premier ministre britannique qui met en garde la Chine, qui pourrait devenir, selon ses mots, un État paria à l'issue de la crise. Des critiques dénoncé cet après-midi par Pékin.
Je veux dire à tous ces politiciens qu'en ce moment, sauver des vies devrait être leur priorité, bien avant de faire de la politique. Manipuler les gens et leur sécurité pour des raisons politiques est immoral et inhumain.
Le régime, de son côté, vante au contraire une gestion exemplaire de l'épidémie. Comme sur cette vidéo diffusée par l'organe de presse officiel du parti, on y voit un soignant s'équipé de la tête aux pieds avec plusieurs couches, un processus qui, selon la légende en haut de l'image, aurait permis d'empêcher la contamination des 40 000 médecins de la province du Hubei. Une information impossible à vérifier. Pékin, qui se félicite aussi d'avoir bien mieux géré la crise que les pays occidentaux. C'est en tout cas ce qu'indique cette lettre d'un diplomate chinois, publiée sur le site de l'ambassade de Chine en France.
Certaines personnes, dans le fond, sont très admiratives des succès de la gouvernance chinoise. Ils envient l'efficacité de notre système politique et haïssent l'incapacité de leur propre pays à faire aussi bien.
Une démonstration de force qui passe mal, notamment auprès de la secrétaire d'État chargée des affaires européennes.
C'est parfois plus simple, vous voyez, de faire de la propagande, des belles images, et parfois d'instrumentaliser ce qui se passe. La solidarité, ça ne s'instrumentalise pas. À un moment donné, la Chine a eu besoin de nous. Début février, fin février, on a envoyé 56 tonnes de matériel à la Chine. C'est très bien, et je pense qu'il ne faut pas être dans une comptabilité, dans une instrumentalisation, dans un comptage qui serait indécent. On est solidaire, point.
La France agacée, mais largement dépendante de la Chine. Un pont aérien a été mis en place depuis quelques jours entre les deux pays pour acheminer les millions de masques nécessaires pour affronter la crise.
Et cette question qui nous est posée ce soir, que vaut la parole de cette Chine qui au dernier moment se vend au plus offrant sur le tarmac avec sa cargaison de masques? C'est Jean dans l'Essonne qui fait référence à cet épisode qui a été raconté par le président de la région Grand Est notamment, expliquant que les Américains, en faisant la surenchère, avaient pu acheter à coup de dollars des cargaisons sur le tarmac des aéroports chinois qui étaient réservées pour d'autres pays, notamment la France.
Alors ça, il va falloir vérifier si effectivement il y a une surenchère, mais d'après des sources que j'ai eues à Hong Kong, de gens qui travaillent sur l'import-export de produits médicaux en Chine, il semblerait effectivement que le prix des masques exportés, parce qu'on est dans le commerce, là, soyons clairs,
les 1 milliard,
ce ne sont pas des dons. Taïwan a donné, a dit qu'ils allaient donner, je crois, 10 millions de masques, dont 7 millions pour l'Union européenne. Mais là, dans le cas de la Chine, c'est du commerce. La Chine vend des masques aux pays qui en ont besoin et sans doute aux plus offrants. Donc, ce qui serait absolument scandaleux, c'est si la Chine mettait un embargo sur la vente de masques et refusait aide vendre à tel ou tel pays. Donc là, on est dans le cadre de relations commerciales win-win, comme disent les Chinois, gagnant-gagnant, puisque eux gagnent de l'argent et nous recevons des masques. Mais on a beaucoup parlé aussi de ce pont aérien franco-chinois. Alors évidemment, en termes d'image, on pouvait imaginer quasiment un plan Marshall avec la Chine abreuvant l'Europe de masques. Mais là encore, ça trompe. On est dans une relation commerciale. La Chine fabrique des masques en grande quantité. Certains d'une
116
qualité,
millions de masques par jour.
Certains d'une qualité sur laquelle on peut se poser des questions, mais ça répond aussi à notre propre faiblesse. On a désindustrialisé, on a énormément de mal à relancer la production dans notre environnement régional, même si ça n'est pas uniquement... Donc, encore une fois, la Chine remplit un vide, comme elle remplit un vide en Afrique, mais encore une fois, c'est du commerce, ça ne sont pas des dons, et la Chine, semble-t-il, vend ses masques à un prix qui
mais on a vu la réaction de Amélie de Montchalin, qui a l'air agacée par la promotion que veut faire la Chine de ce commerce avec le commerce du masque, en gros.
Oui, alors bien sûr, la Chine fait de la communication, de la propagande, mais tout le monde le fait. Quand nous, on fait de l'aide aux pays du Sud, on communique. Enfin, je veux dire, tout pays qui aide un autre communique dessus. C'est le jeu. Et donc, on peut s'en plaindre. Ce qu'il faut plutôt, c'est dire pourquoi on en est arrivé à une situation où on a besoin de la Chine pour avoir des masques. Et donc, on peut effectivement critiquer les Chinois de vendre des masques, mais il aurait mieux valu ne pas être dépendant d'eux. On a quand même exporté beaucoup de production là-bas depuis 15 ou 20 ans.
Mais vous voyez, l'Europe est agacée d'entendre les Chinois dire « on va aider les Italiens parce que l'Europe ne le fait pas », alors que l'Europe a aidé la Chine quand elle en avait besoin.
Alors là, effectivement, il y a toujours un excès dans la communication chinoise parce que ce type de déclaration est complètement contre-productive et n'aide pas. Mais le fait qu'ils annoncent d'aider des pays, il faut voir un peu comment c'est perçu dans les pays où l'aide est reçue. Et c'est pas quand on dira c'est une dictature, c'est horrible, etc. Ils font de la propagande. Ça, c'est une vision occidentale de la chose, dans une rivalité avec la Chine. Mais dans les pays d'Amérique latine, dans les pays d'Afrique qui reçoivent de l'aide chinoise, c'est différent. Et il faut distinguer finalement ce qu'est l'action commerciale, parce qu'il y a des opérations commercial de vente et aussi de l'aide.
Mais quand on dit, la Chine aide l'Italie, c'est faux ? Chine vend à l'Italie ?
Oui, la Chine a vendu à l'Italie des masques et du matériel. Donc la Chine a vendu à l'Espagne des masques et des tests. La Chine a vendu à plusieurs pays européens des masques, donc ça n'est pas de l'aide, ce sont des relations commerciales. Et la Chine met en avant, et d'ailleurs il y a eu un article évidemment publié en chinois, non traduit, mais extrêmement important, publié par l'agence Xinhua, qui est l'agence Chine Nouvelle, dont on pourra parler d'ailleurs de Pékin, qui utilisait presque une sorte de menace face aux États-Unis en disant, attention, si la Chine refusait de vendre et ses masques et ses tests aux États-Unis, les États-Unis se trouveraient plongés dans le chaos du coronavirus. La Chine a déjà souvent utilisé l'arme de l'embargo, de la menace d'embargo, pour exercer des pressions politiques. On se souvient des terres rares. Effectivement, Pascal Boniface a raison, on n'aurait jamais dû, c'est ridicule de dire on n'aurait jamais dû, mais enfin, c'est très très dangereux par facilité, parce que pour beaucoup d'entreprises, c'était un bénéfice extraordinaire de tout miser sur une puissance qui, encore une fois, utilise... C'est très léniniste, utilise n'importe quel moyen pour arriver à ses fins. Ses fins aujourd'hui, c'est de rétablir la réputation de la Chine et de faire en sorte que tout ce dont on parle, relocalisation par exemple, affole énormément la Chine et que ça ne se produise pas.
Et insister parfois sur les divisions de l'Europe, j'en profite pour rectifier. Il y a deux jours, j'avais raconté l'épisode de la Tchéquie qui avait intercepté des masques en provenance de Chine en direction de l'Italie. J'avais parlé de la Slovaquie, ce qui a beaucoup heurté, on peut le comprendre, les Slovaques, non, c'était bien la Tchéquie. Et cet épisode a beaucoup heurté aussi les Européens qui se sont dit on n'est même pas capable de se mettre d'accord. Cet épisode restera dans la mémoire des Européens, sans doute, hein, Pascal Boniface.
C'est plutôt déplorable, c'est quand même très franchement déplorable, surtout de la part d'un pays qui a reçu quand même des montants d'aide structurelle relativement importants.
De la part de l'Europe.
Voilà.
Juste Frédéric Lemaître sur la diplomatie du masque, hein, en réalité, et des aides dont on a bien compris que ce n'était pas gratuit et que c'était aussi du business.
Alors, ça peut être aussi gratuit. Fondation d'Alibaba et la fondation de Jack Ma ont quand même apporté la semaine dernière en Belgique, pour toute l'Europe, je crois quelque chose comme 14 millions de masques. Donc il y a aussi des dons de la part du gouvernement chinois, même si actuellement il y a une telle compétition entre les pays occidentaux qu'ils se tournent vers les industriels chinois et c'est aussi du commerce. Mais il y a les deux, il ne faut pas non plus oublier la part de dons, elle existe, même si elle est effectivement très prémédité.
Antoine Flahaut, sur les masques, sur la polémique autour des masques, c'est quand même, on s'est rendu compte à l'occasion de cette crise qu'on était tous très dépendants de la Chine pour la production des masques.
Oui, enfin, c'est étonnant le discours sur les masques. Il est en train de changer, mais les Occidentaux étaient assez méprisants vis-à-vis des masques. Moi, j'ai des étudiants chinois qui sont actuellement à l'Université de Genève et qui m'ont dit, mais dans les rues de Genève, on se sentait discriminé en portant des masques. Ils portaient tous des masques, les Chinois, quand ils étaient dans la rue à Genève, et ils étaient les seuls à le faire. Et c'est vrai que comme nous, on disait à l'époque, ne doivent porter des masques que les gens qui ont des symptômes, si vous portiez un masque, on avait peur que vous soyez porteur du virus. Donc on n'a pas une culture jusqu'à présent de porter des masques très, très développée. Et je pense que c'est cela qu'il faut peut-être apprendre, parce que c'est vraiment un des moyens de diminuer la probabilité de transmission du virus. Dans les hôpitaux, on le sait très bien, les personnels de santé sont très équipés, mais il faut que dans les EHPAD, il faut que dans tous les endroits où il y a un risque de transmission aiguë, accrue, on puisse réapprendre la culture de porter des masques. Et je pense que l'absence de pénurie va nous aider dans ce discours.
En la matière, ils sont un modèle.
C'est-à-dire ?
Sur le fait, par exemple, qu'il y a une culture en Asie de porter des masques. Et voilà, il nous explique dans la vidéo qu'on a vue dans le reportage que si on s'était mieux protégé, si on savait mieux se protéger, l'épidémie aurait été moins difficile à maîtriser.
Alors, c'est peut-être intéressant de voir qu'il y a deux modèles asiatiques qui nous ont été présentés. Et on a tous, presque la moitié de l'humanité est confinée aujourd'hui, c'est-à-dire a pris le modèle chinois, qui est le modèle archaïque, parce que finalement, c'est un modèle renforçant des dispositions qui étaient appliquées pour la pandémie de 1918 de la grippe espagnole. J'ai un très fort retour, un écho, s'ils peuvent me l'enlever, ce sera agréable.
Alors, on peut faire quelque chose pour l'écho. Ça, je ne peux pas, là où je suis, mais je vous promets qu'on va essayer de vous aider.
Donc, le choix d'un modèle archaïque est celui que nous avons tous fait dans l'urgence, alors que se développait sous nos yeux un modèle, je dirais, du 21e siècle, de distanciation sociale de précision, c'est-à-dire, c'est le modèle de Singapour. Vous savez, à Singapour, ils n'ont pas fermé leurs écoles, ils n'ont pas fermé leurs bars et leurs restaurants, ni leurs cinémas, ils ont juste interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes. À Singapour, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du test très intensif de toutes les personnes qui sont susceptibles d'être positif pour le virus. Et lorsqu'ils détectent des gens positifs, à ce moment-là, ils font du traçage de tous les contacts de façon extrêmement intensive également, avec tous les moyens qui sont à leur disposition, y compris l'intelligence artificielle, y compris les dispositifs de caméras de surveillance, etc. Et grâce à cela, ils isolent. Ils font de la distance sociale, c'est-à-dire qu'ils isolent les gens qui sont infectés des gens qui sont bien portants. Alors que nous, on met les infectés, les bien portants dans les mêmes foyers et on les emprisonne quelque part par un confinement strict. Il y a donc deux façons de faire, l'une qui est très populationnelle mais très archaïque, et puis l'autre qui est extrêmement efficace, car Singapour a le taux de mortalité le plus faible du monde en matière de coronavirus aujourd'hui. Singapour est en face de la Chine et n'a pas vu la vague rentrer chez elle. Et quand je dis Singapour, on aurait pu parler de Taïwan, mais Taïwan, c'est un tabou. Taïwan essaye de vouloir rentrer à l'OMS, mais la Chine s'y oppose très fermement. Donc Taïwan, on ne peut pas en parler. Ils adoptent la même technique que celle de Singapour. La Corée du Sud, on l'a vu, avec beaucoup plus de succès. Hong Kong également. Donc il y a des modèles qu'on aurait pu prendre, que l'on peut toujours prendre, d'ailleurs, je crois, et qui sont les modèles du 21e siècle. Mais on a préféré prendre le modèle du début du 20e siècle.
C'est intéressant ce que vous dites, le fait qu'on se soit tous calés derrière le modèle chinois. Frédéric Lemaître, dans ce qu'on entend aussi de la part des autorités chinoises qui sont très à l'offensive sur la communication, peut-être plus que d'habitude, c'est l'idée de dire, regardez, nous, on s'en est mieux sortis parce qu'on est un régime autoritaire.
Oui, absolument. Je voulais juste préciser sur ce qui vient d'être dit, parce que je crois qu'on a une mauvaise perception de ce qui s'est passé à Wuhan et dans le Hubei. On n'a pas seulement demandé aux gens de rester chez eux. C'est le modèle chinois tel qu'on le pense. On a demandé aux gens de rester chez eux et dans tout le Hubei, des équipes médicales sont allées dans chaque appartement voir s'il y avait des gens malades et s'il y avait des gens malades, ils étaient isolés et tous les membres de leur famille étaient placés dans des hôtels qui ont été réquisitionnés.
D'accord.
Donc, ce n'est pas simplement le confinement comme on l'a actuellement, c'est le confinement plus l'isolement de toutes les personnes malades ou proches des malades. Ça, c'est un point. Alors, par ailleurs, effectivement, la Chine dit, nous, maintenant, depuis fin février, on s'en est sorti, même s'ils ont peur maintenant d'une deuxième vague de malades importés, comme ils disent. Et le modèle autoritaire nous permet de réagir plus rapidement que vous, les démocraties. Et c'est la supériorité du socialisme aux caractéristiques chinoises. Ça, il y a une propagande très forte. Effectivement, il est important que l'Occident ait une contre-propagande, en tout cas réagisse à ce discours.
Valérie Niquet.
Oui, et sur Wuhan, en fait, et sur le confinement, la grande question, et on en revient un peu au débat initial, c'est que confiner, c'est très bien. Mécaniquement, le nombre de cas, évidemment, disparaît quasiment en totalité une fois que les gens soient immunisés, soient totalement isolés. Mais en réalité, dès qu'on relâche la vigilance et que le confinement s'arrête avec ce type de solution, on n'a aucune garantie et les Chinois ont très peur. Ils accusent
beaucoup. Ils ont peur d'une deuxième vague.
Oui, les étrangers qui sont en fait à plus de 90% des Chinois qui vivent à l'étranger, qui reviennent en Chine. Effectivement, il y a ce type de contamination, mais on commence à voir aussi, et c'est la raison pour laquelle la Chine avait réouvert les cinémas, par exemple, les a fermés à nouveau, à Shanghai notamment, parce qu'on commence à voir à nouveau des cas de contamination locaux. C'est une solution qui ne peut pas être à long terme.
Et on va voir à quoi a ressemblé justement la fin du confinement en Chine. La Chine a annoncé des mesures de soutien à son économie. 128 milliards pour encaisser le choc de la crise. Comme nous le raconte Yuan Gao, un entrepreneur de Pékin, l'activité économique a pourtant bien repris en Chine, même si les transports et les échanges sont encore très contrôlés. Il répond à Paul-Rémy Barjavel et Nicolas Baudry-Dasson.
Les autorités chinoises ont beaucoup encouragé les sociétés de reprendre les activités économiques par différents moyens. Par contre, comme vous le savez, il y a quand même des conditions fixées par les autorités. Quand on veut entrer dans le parc industriel, il faut qu'on scanne un code QR. Pour savoir notre itinéraire depuis 15 jours, pour être sûr qu'on ne vient pas de province de zone hautement contaminée. Le rythme de l'unité de production est très léger, honnêtement, parce que notre carnet de commandes n'est pas assez épais. Et le rythme de l'unité commerciale est très intense parce qu'on essaye justement de remplir notre carnet de commandes ou de rattraper les pertes. Les pays de l'Asie du Sud sont maintenant en mode de confinement. Il est même des fois difficile de leur joindre. Donc pas encore de commandes de l'étranger, mais on attend vraiment des commandes qui devaient déjà arriver. Les restaurants ne sont pas encore ouverts. Néanmoins, certaines boutiques ont commencé à ouvrir. La vie quotidienne se passe, on va dire, comme normal, sauf qu'on ne peut pas aller au centre commercial faire du shopping.
Frédéric Lemaître, comment ça s'est passé la fin du confinement à la fois à Wuhan? Est-ce qu'il est totalement fini à Wuhan et à Pékin où vous vous trouvez?
Alors, à Wuhan, il n'est pas fini du tout. Il va être terminé théoriquement le 8 avril. Il est fini dans le reste du Roubaix, mais pas à Wuhan. Donc, à Wuhan, il y a des trains qui commencent à arriver. Il n'y a pas encore de trains qui partent. Il n'y a pas encore d'avions, etc. pour les vols intérieurs. Donc, Wuhan est encore une ville confinée en grande partie, même si les gens peuvent commencer à sortir. Et il y a une autre ville où les gens sont aussi très, très surveillés, c'est Pékin, justement. La capitale sera sans doute, avec Wuhan, la dernière ville où l'activité va reprendre normalement. Un Chinois ne peut pas venir à Pékin aujourd'hui sans être placé en quarantaine pendant 15 jours. Les Pékinois ne peuvent pas sortir librement de leur résidence, ne peuvent pas aller chez des amis. L'industriel a dit que pour rentrer dans une entreprise, il faut présenter un code QR. c'est pas seulement dans une entreprise. Quand vous allez dans un café, il faut également présenter ce code qui dit tout ce que vous avez fait durant les 15 jours. Et les écoles ne sont pas rouvertes. Et les écoles ne devraient sans doute pas rouvrir à Pékin. Je ne sais pas, dans le reste de la Chine, peut-être à partir d'avril, mais Pékin, vraisemblablement pas avant mai et peut-être même juin. Donc la vie normale est loin d'avoir repris à Pékin.
Et en préparant cette émission, j'ai lu qu'il y avait eu des tensions entre certains Chinois, justement pour les circulations de population d'un endroit à un autre. Ça a créé des crispations au sein de la société chinoise. Est-ce que c'est le cas ?
Notamment, enfin, les gens du Roubaix, il y a plusieurs millions de personnes du Roubaix qui ont voulu retourner dans les provinces où ils habitaient. Et il y a eu des émeutes parce que les gens des provinces autour du Roubaix n'ont pas voulu les laisser rentrer. Et donc, les gens du Roubaix sont des pestiférés. Si vous êtes allé dans le Roubaix, j'ai même un exemple d'un couple originaire du Roubaix qui habite Pékin, qui était obligé de déménager alors qu'il n'était pas allé du tout dans le Roubaix. Ouais. Mais comme il est originaire d'eux, il n'avait plus le droit d'habiter dans cette résidence parce qu'il y avait un membre important de l'administration qui habite. Donc ça ne se passe pas si bien que ça.
Antoine Flao, on se rend compte que quand on entend les autorités chinoises disent « ça reprend, ça va mieux, la fin du confinement », ça se fait de manière très prudente et très lente en Chine.
Alors, on est sur des routes non goudronnées. Le confinement, c'est quelque chose qui est une invention des Chinois. Il faut savoir que ça n'a jamais été fait auparavant. Ce qui existait, c'était cet éventail des mesures qu'on appelle de distanciation sociale, la fermeture des écoles, l'interdiction des rassemblements, la limitation des mouvements des personnes et les cordons sanitaires. Tout ça ayant été fait, comme je l'ai dit, pour la grande pandémie grippale qu'on a appelée la grippe espagnole. Et ça a été bien évalué, c'était efficace, le fait est. De fermer les écoles permet de sauver des vies. C'est tout à fait, aujourd'hui, très clairement démontré. Mais ce confinement strict organisé, qu'on appelle le lockdown en anglais, organisé par les Chinois, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait à cette échelle. Et donc, il n'y a aucun manuel d'épidémiologie qui permet de vous dire comment il faut déconfiner, dans quel ordre, à quel rythme et à partir de quand.
Personne ne le sait. Ils ont raison de craindre un retour de l'épidémie ?
Alors, on leur a demandé, on revient presque à la discussion du départ, on leur a demandé de faire ces enquêtes de séroprévalence qui permettent de savoir quel est le pourcentage de la population qui a été infectée, parce que l'on sait aujourd'hui qu'il faut qu'environ 60 à 70% de la population soit infectée pour garantir qu'on n'ait plus d'épidémie à venir avec ce virus. Alors, c'est simple, s'ils font ces enquêtes et qu'ils voient qu'à Wuhan, il y a déjà 50 ou 60% de la population qui est infectée, ils ne risquent plus rien. Mais si, en revanche, ils sont à 5% ou à 3% ou inférieur à 1% comme ils le prétendent, alors oui, bien entendu, le moindre déconfinement, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, ce sont des freins, dès qu'on les lève, ça redémarre. Mais si ça ne redémarre pas, c'est un peu suspect.
Cette question, à l'issue de cette crise sanitaire, la Chine peut-elle devenir la première puissance économique mondiale ?
Alors là, je ne crois pas du tout.
Non, vous êtes d'accord ?
Oui. C'est trop tôt.
Pour une fois, oui. Non seulement, pour les raisons économiques, on l'a bien vu avec l'entrepreneur chinois, l'économie chinoise est totalement dépendante de l'extérieur, contrairement à ce qu'on imagine souvent. 18% du PNB chinois vient encore des exportations vers les pays les plus développés. Si l'économie dans le reste du monde se bloque, les marchés, on le voir, enfin, tout ce qui est textile et ce genre de choses, il n'y a plus de consommation et tout ça vient de Chine. Donc, on a beaucoup parlé de la montée en gamme de la production de la Chine, mais la Chine reste encore essentiellement l'usine du monde. Pour le bien, c'est vrai que c'est les seuls qui soient aujourd'hui de produire dans de telles quantités les masques dont on a tant besoin, par exemple, mais aussi le textile et tout ça, pour le moment, est à l'arrêt. La Chine a besoin du monde et, par ailleurs, je pense qu'on va quand même réaliser que cette, encore une fois, globalisation qui a énormément bénéficié à la Chine, totalement centrée sur la Chine, va sans doute se répartir d'une manière plus harmonieuse, c'est un mot chinois, peut-être vers les pays d'Afrique du Nord ou même d'Afrique subsaharienne, vers l'Europe centrale, vers la Turquie. Toutes ces zones qui étaient des zones de production avant que la Chine n'absorbe en quelque sorte toutes les capacité et avec des conséquences.
Elle y perdra après cette crise, c'est ça que vous nous expliquez.
Alors, je vais dire une chose épouvantable, je ne dirais pas que je l'espère, mais ce que j'espère, moi, c'est qu'il y ait une prise de conscience sur la nécessité de mieux répartir les centres de production, ouais, y compris pour le bien du développement de zones qui sont plus proches de nos frontières.
Pascal Boniface.
L'avance des États-Unis en termes de PIB est trop importante pour que la Chine, dans les années qui viennent, dépasse les États-Unis.
Pourtant, c'est l'ambition, hein, Xi Jinping, il le dit très régulièrement.
Plutôt 2044, 2049, d'accord, ou d'ici 20 ans, mais pas... Alors, je pense, moi, qu'il va y avoir un rattrapage accéléré de la Chine par rapport aux États-Unis, notamment du fait de la gestion catastrophique par Donald Trump de cette affaire. Parce que dans beaucoup de pays du monde, ce que l'on voit, c'est pas que la Chine est une dictature, c'est que la Chine est là, alors que la démocratie américaine n'est pas là. Et ça, ça restera. Mais effectivement, l'économie chinoise...
Quand vous dites la Chine est là et la démocratie américaine n'est pas là, ça veut dire quoi ?
En Afrique, par exemple, en Amérique latine, il y a des aides chinoises qui arrivent. Alors, une fois encore, bien sûr, c'est de la propagande, mais il vaut mieux une aide avec propagande que pas d'aide du tout, et que pas d'aide et pas de propagande. Et donc, pour beaucoup de pays qui n'ont pas la perception occidentale que nous avons, il faut aussi voir que l'Occident n'est pas seul au monde, que tout le monde n'a pas la vision occidentale, et que de nombreux pays dans le monde vont se dire, au moins, les Chinois nous aident, alors que les États-Unis ne sont pas là, et qu'on pensait que les États-Unis étaient une très grande puissance moderne, ils ne sont pas capables de soigner leurs malades. Donc, il va y avoir une image, quand même, des États-Unis très dégradée après cela. Mais les fondamentaux de l'économie américaine restent supérieurs aux fondamentaux de l'économie chinoise. Donc, il n'y aura pas de rattrapage. Et surtout, effectivement, et là, je suis d'accord avec Valérie, c'est que l'économie chinoise est très dépendante du monde extérieur. C'est une économie qui est quand même dirigée par les exportations. Même si Xi Jinping essaye de faire une relance intérieure pour que la consommation interne prenne le pas, mais la croissance chinoise, elle est due aux exportations, beaucoup plus qu'à la consommation intérieure. Et si le monde entier est en crise, eh bien la Chine, forcément, va payer la crise. Si les États-Unis sont en crise économique, il y a moins d'achats américains.
Frédéric Lemaître, nous, vu d'ici, on a vu que des grandes enseignes américaines avaient rouvert leurs magasins et l'ont fait savoir en disant, en gros, l'activité économique, on a besoin de bonnes nouvelles, hein, nous aussi, en ce moment. L'activité économique reprend en Chine. Alors on s'est dit, ça y est, ils ont vraiment géré la sortie de l'épidémie. Est-ce qu'il y a une activité économique vraiment qui a repris? Alors avec cette fameuse courbe en V que commandent beaucoup les économistes ici, c'est-à-dire avec une belle énergie, quoi.
Non, je pense qu'il est encore un peu trop tôt. On dit que 75% à peu près de l'activité a repris. Mais c'est ce que disent vos autres invités, ce que disait le documentaire. Si le reste du monde va mal, de toute façon, la Chine n'ira pas bien. Et c'est la situation en ce moment. Donc là, c'est bloqué. Et il y a des tas de problèmes de transport intérieur de la Chine et de logistique. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Valérie Niquet et Pascal Boniface. Avec un petit bémol, on ne peut pas exclure quand même que les Chinois des nouvelles technologies prennent une longueur d'avance dans le domaine et de l'enseignement à distance et de la santé par rapport à leurs compétiteurs occidentaux. Et donc, je pense qu'il y a quand même des entreprises chinoises qui vont sortir nettement renforcées de cette crise.
Il y a des gens au chômage à l'issue de cette crise en Chine. Je disais tout à l'heure que les Chinois avaient mis 128 milliards pour encaisser le choc, notamment aider les PME, etc., et aider aussi l'industrie automobile, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que socialement, il y a un coût de cette crise?
Il y a un coût, mais encore une fois, c'est très difficile à estimer, puisqu'on n'a pas de statistiques très fiables, contrairement d'ailleurs à ce qui se passe aux États-Unis, immédiatement, tout est visible. Donc, ça, c'est la faiblesse, entre guillemets, des démocraties, c'est qu'on voit toute leur déficience. En revanche, en Chine, c'est toute cette population de migrants qui travaillent au jour le jour, qui sont en fait des immigrants de l'intérieur, qui vont se louer dans le secteur du bâtiment, de la construction. Eh bien, tous ceux-là sont directement frappés. Toutes les petites sociétés de services qui font vivre les villes chinoises et même les campagnes chinoises, eh bien, eux aussi sont frappés de plein fouet. Ça n'est pas eux qui vont bénéficier au premier chef des... Alors, il y a un très grand dynamisme de la population chinoise pour se relancer, monter une autre affaire, trouver un moyen de gagner de l'argent. Mais pour le moment, en tout cas, énormément de gens se retrouvent sans ressources. Alors après, il y a les ressources familiales, il y a le retour à la terre, puisque peut-être que les campagnes ont été finalement moins touchées et qu'en général, les gens ont gardé un lopin, entre guillemets, auquel ils ont le droit. Donc tout ça, mais on est dans le flou le plus total, puisqu'on n'a pas d'informations fiables sur la manière dont ça se passe.
En tout cas, c'est une inquiétude partagée par toute la communauté internationale. Comment l'Afrique va pouvoir faire face à l'arrivée de l'épidémie? La Chine a tissé des liens diplomatiques et commerciaux depuis longtemps avec ce continent. Et d'ailleurs, Jack Ma, le patron d'Alibaba, l'homme le plus riche de Chine, a déjà fait parvenir des masques, des matériels. Mathieu Lignot et Aurélie Saner.
C'est un milliardaire chinois qui vient en aide aux pays africains. Le fondateur du site de vente en ligne Alibaba a envoyé ces derniers jours plusieurs tonnes d'équipements médicaux par avion. Comme ici à Nairobi au Kenya. En plus de l'aide du gouvernement chinois, le PDG Jack Ma a promis à chacun des 54 pays d'Afrique 100 000 masques, 1000 blouses et des kits de dépistage.
Nous avons reçu 20 000 tests de la fondation de Jack Ma et des équipements de protection personnelle qui vont être rapidement déployés dans notre centre de secours d'urgence.
On compte officiellement près de 6 000 cas et plus de 200 morts sur le continent. En rouge, les pays les plus touchés, et en blanc, ceux sans aucun cas, selon leurs autorités. Mais impossible de faire un décompte précis. Les tests sont quasi inexistants. Alors l'OMS s'inquiète.
Il est essentiel que nous nous assurions que ces pays soient bien équipés pour détecter, tester, isoler et traiter les cas et identifier les contacts. Je trouve encourageant de voir que cela se produit dans de nombreux pays malgré des ressources limitées.
Peu de médecins, d'hôpitaux ou de matériel, comme ici au Mali. Le pays ne compterait qu'une trentaine de lits disponibles pour 18 millions d'habitants. Alors ce chercheur se prépare à faire avec les moyens du bord.
Le système va être rapidement débordé parce qu'il faut rapidement diagnostiquer, identifier déjà tous les cas contacts, les diagnostiquer s'ils sont positifs et les positifs les isoler. Donc le système national va être débordé.
Alors pour tenter de freiner l'épidémie, certains pays d'Afrique ont pris des mesures de confinement. Les rues de Lagos, troisième plus grande ville du monde, vidée de ses 20 millions d'habitants. En Afrique du Sud, l'armée patrouille. Mais voilà, comment faire respecter les gestes barrières, se laver les mains quand il n'y a pas l'eau courante? Comment vivre confiné sans revenus? Alors que les autorités désinfectent les déchets, les habitants des townships sont résignés.
Comment tu peux rester à la maison sans nourriture? Nous sortons parce que nous avons faim.
Ce coronavirus va nous tuer. On n'a aucune raison de s'obstiner. Cette chose va nous tuer.
On essaye de faire de notre mieux pour rester confinés. Mais notre plus gros problème, c'est la densité de population. Il y a 6 ou 7 personnes dans une seule pièce.
L'Union européenne, elle aussi, apporte son aide à l'Afrique. Plusieurs centaines de millions d'euros ont déjà été versés à divers fonds de solidarité. L'enjeu est important, selon Jean-Yves Le Drian.
Il faut l'aider par solidarité et il faut aussi l'aider par sécurité. Parce que le risque majeur, c'est l'effet boomerang, la réimportation, la deuxième vague.
L'Organisation des Nations Unies estime que 3 000 milliards de dollars seraient nécessaires pour aider les pays en voie de développement à surmonter la crise. La majorité est située en Afrique.
Je voudrais avoir votre réaction, Antoine Flau, à ce reportage qu'on vient de voir.
Oui, je pense que cette préoccupation africaine, elle est vraiment au centre, parce que si nos systèmes de santé ont eu tant de difficultés, on l'a vu en Italie, on le voit en France, en Espagne en ce moment, puis à New York, ce sont des systèmes de santé extrêmement riches, extrêmement développés, même s'ils ont leur crise aussi. Mais je veux dire, ce sont des systèmes qui n'ont absolument aucune comparaison avec ce qu'on peut voir en Afrique. Donc on peut se dire que la grande difficulté de l'Afrique va être de pouvoir donner une chance de survie à ceux qui auront des complications très graves de cette maladie. Alors le côté positif, on peut dire l'espoir qu'on peut avoir, c'est que la démographie est en faveur de l'Afrique. Elle est très jeune en Afrique. Et donc, comme on sait que 95% de la mortalité de ce coronavirus est chez les plus de 65 ans, on peut se dire qu'au moins l'Afrique va être un peu épargnée par cela. Ils ont beaucoup, beaucoup moins de personnes très âgées que nous. Mais quand même, il faut voir qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux français, la moitié des personnes hospitalisées en réanimation a moins de 58 ans. C'est-à-dire qu'il y a donc beaucoup de gens jeunes, en réalité, qui survivent. Pourquoi ? Parce qu'ils bénéficient de standards de soins et de qualité très élevés et que les Africains n'auront pas. Donc, c'est ça vraiment le problème et la préoccupation aujourd'hui, je pense.
Et Frédéric Lemaitre, puisque nous parlons de la Chine ce soir, la Chine a des liens très étroits avec le continent africain.
Oui, la Chine a des liens très étroits avec le continent africain. Et d'ailleurs, son programme majeur d'investissements internationaux, les routes de la soie, ont une composante importante dans le domaine de la santé. Depuis 2015, la Chine a vraiment un programme structurel qu'elle appelle la coopération Sud-Sud pour les pays africains dans le domaine de la santé. La Chine était très présente en 2014-2015 au moment de la crise d'Ebola en Afrique. Et la Chine dit aussi, jusqu'en 2017, c'était l'OMS qui nous aidait, nous Chinois. Depuis 2017, c'est nous, la Chine, qui est dans l'OMS et donc également les pays africains.
Et cette question qui nous est posée ce soir, l'aide de la Chine aux pays africains est-elle vraiment désintéressée, Pascal Boniface?
Non, pas du tout. Elle est tout à fait dirigée pour gagner de l'influence, pour gagner en termes de rapprochement diplomatique, pour essayer d'avoir, il y a 54 voix à l'ONU en Afrique. Il y a aussi beaucoup de matières premières qui intéressent la Chine. Donc évidemment, l'aide n'est pas désintéressée. L'aide, elle est au service de la diplomatie chinoise.
D'ailleurs, vous avez raison, on précise, la Chine a des intérêts en Afrique, des intérêts économiques. Elle absorbe une grande partie des exportations de matières premières, le manganèse, le chrome et le fer. Donc forcément,
Elle est très dépendante. C'est-à-dire que nous sommes dépendants, nous, en termes industriels de la Chine, mais la Chine est très dépendante pour tout ce qui est matières premières, aussi dans le domaine alimentaire de l'Afrique. Et il y a une compétition aujourd'hui en Afrique. L'Afrique était le continent oublié. Maintenant, il y a une compétition, notamment entre le Japon, la Chine, la Russie revient aussi. Mais les Chinois... Et l'Europe a des positions traditionnelles qui existent toujours, que l'on maintient évidemment, mais on a à faire face à une concurrence chinoise qui n'existait pas. La part relative du commerce de la France avec l'Afrique a baissé, le volume global a augmenté, mais la part relative a baissé parce que la Chine était totalement absente il y a 20 ans et qu'elle a une politique constante, très active, les routes de la soie entre autres, mais aussi d'influence, celle qui a construit le siège de l'Union africaine à Addis Abeba avec quelques micros en plus. Par ailleurs, ouais. Donc elle a vraiment une politique très, très agressive d'influence en Afrique.
Au-delà de la politique agressive d'influence et la politique commerciale, est-ce qu'on peut imaginer une mobilisation internationale pour l'Afrique, justement pour faire suite à ce que disait Jean-Yves Le Drian, c'est-à-dire parce que ça peut devenir aussi un réservoir du virus pour les prochaines années.
Et pour l'instant, qui est concerné par l'Afrique, les pays européens sont pris eux-mêmes, tellement pris par leurs propres difficultés qu'il est difficile de dégager du personnel, de l'aide pour en Afrique. Donc les États-Unis, il n'est pas question qu'ils aident, le Brésil n'est pas là. Donc qu'est-ce qui reste ? Il reste la Chine. Et ce qu'il faudra faire aussi dans un premier temps, c'est pas tellement envoyer des masses de produits, c'est aider les pays africains à produire localement en termes sanitaires, en termes de masques, etc. Peut-être baisser les droits sur les brevets parce qu'il sera beaucoup plus important pour l'immédiat et l'avenir que l'Afrique puisse produire elle-même tous les biens, tous les produits dont elle a besoin.
Mais là, il y a une urgence.
Il y a une urgence, effectivement. Donc, pour l'instant, le constat, c'est que la Chine répond à cette urgence et que quand même les pays européens sont présents aussi, mais que d'autres pays ne sont pas là et qu'il n'y a pas une réponse globale destinée à l'aide à l'Afrique. Il n'y a pas une réponse. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne se réunit pas.
Pourquoi ?
Parce qu'il est bloqué par... Alors, c'est la Chine qui l'a prise au mois de mars, donc elle n'a pas fait de réunion. Mais là, on est en avril, donc on pourrait dire. Et on voit bien que... Et le G7 ne fait rien parce que c'est les États-Unis qui sont à la tête. Et donc, effectivement, il n'y a pas une instance internationale qui pourrait dire « il y a une urgence africaine ». Mettons de côté nos divergences, quels sont les montants, quelles sont les possibilités disponibles. Et donc là, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de réponse multilatérale aux besoins africains.
Valérie Niquet. sur l'Afrique.
Bah effectivement, je ne vais pas répéter ce que vient de dire Pascal, avec, je suis complètement d'accord avec cette analyse. Encore une fois, le gros problème en plus de l'Afrique, d'une manière qu'on pourrait qualifier presque de cynique pour l'Union européenne, c'est qu'il faut absolument qu'on aide l'Afrique et qu'on surveille et qu'on voit comment l'épidémie est gérée, parce que sinon ça signifie non seulement la levée du confinement en Europe, mais toute cette question de la frontière et de l'ouverture des frontières de Schengen. On se souvient des crises de migrants et de la manière dont on gère bien ou mal ces crises et dont on accueille ces populations. Si on ne résout pas le problème en Afrique, ça posera des problèmes que l'Union européenne n'a jamais pu gérer non plus sur son propre espace.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Merci pour cette question. Vous allez voir, va-t-on faire la guerre pour des masques ? Qu'est-ce que ça, ce temps ?
Alors, il y a une guerre commerciale. Il y a effectivement, on a vu les masques, où il y a une surenchère américaine, ce qu'ont fait les Tchèques, effectivement. Et donc, il y a une compétition exacerbée, mais pas la guerre, non. Mais enfin, effectivement, il y a des choses...
Mais cette crise sanitaire crée des tensions diplomatiques.
Bah, toujours. Dès que votre vie, de votre santé est en danger, il y a à la fois des gestes remarquables de solidarité et il y a des comportements indignes que l'on voit également.
La France aurait-elle mieux géré la crise actuelle si la Chine n'avait pas minimisé la gravité de l'épidémie ? Antoine Flao.
Ben, oui, c'est vrai qu'il y a eu des retards qui ont été pris très très dommageables. Il a fallu attendre le 23 janvier, à un moment où l'épidémie était exponentielle à Wuhan, pour que les Chinois prennent la décision justement de faire ce confinement strict, d'interdire les avions. Jusqu'à la veille, des avions arrivaient du monde entier à essaimer le virus partout dans le monde. Donc, clairement, on part d'une situation qui a été mal gérée au départ, qui ne lui a pas été reprochée. L'OMS avait reproché à la Chine en 2003 sa mauvaise gestion du SRAS. Ça avait d'ailleurs coûté, le portefeuille du ministre de la Santé chinois de l'époque. Rien de tout cela aujourd'hui. Ces retards ne sont pas pointés du doigt. Au contraire, on loue la qualité de la réponse chinoise, malgré les retards, le déni, ce qui a été dit tout à l'heure vis-à-vis des lanceurs d'alerte qui ont été étouffés. Et donc, on a pris beaucoup de retard en Chine avant de mettre en place ces confinements. Et on a offert aux pays européens que cette solution du confinement, alors que, comme on le disait tout à l'heure, il y avait des solutions plus technologiques, plus efficaces et plus respectueuses de notre économie qui auraient pu être mises en place, mais on n'en avait pas, nous, ni la conscience, ni d'ailleurs la perception.
Mais est-ce qu'il y avait quand même une collaboration scientifique avec les médecins chinois ?
Alors oui, on peut dire qu'il y a pas mal de collaborations scientifiques avec les médecins chinois. Beaucoup de médecins chinois parmi les universitaires sont issus de la diaspora, sont d'ailleurs parfois encore en Occident et exercent aussi en Chine. Il y a une belle qualité de publications et de matériel chinois. Donc oui, il y a des collaborations, mais il y a cette chape officielle sur un grand nombre de choses qui fait qu'on n'a pas confiance dans les données que les Chinois peuvent nous rapporter.
Y aura-t-il une enquête poussée de l'ONU sur l'origine de ce virus et les chiffres officiels des décès en Chine ?
Bah, encore une fois, même si on peut une enquête officielle, on peut toujours le demander, mais rappelons que la Chine est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle présidait jusqu'à maintenant, et effectivement, elle ne se précipitait pas pour qu'il y ait des réunions du Conseil de sécurité sur ce sujet, et que, évidemment, la Chine peut donc utiliser un veto qui bloque toute action du Conseil de sécurité. Elle l'a souvent utilisé pour protéger des régimes amis, notamment en Afrique, le Zimbabwe à une époque, le Soudan, contre des sanctions. Et donc, la Chine, évidemment, mettrait sans doute son veto à toute enquête de la part de l'ONU.
Peut-il y avoir une deuxième vague en Chine ? Antoine Flao.
Alors, il peut y avoir une deuxième vague, tout à fait, parce que probablement, d'abord, toute la Chine n'est pas Wuhan, donc la Chine est un très vaste pays, et il est tout à fait possible que des zones soient encore extrêmement peu contaminées ou aient connu extrêmement peu le virus, et donc il est tout à fait possible, tant que ce virus circule, qu'il recircule en Chine. Il est possible aussi que l'été fasse du bien à tout cela, c'est-à-dire nous laisse un répit, et que ce virus, comme beaucoup de virus respiratoires, ça n'est pas prouvé, c'est un nouveau virus, on verra bien, mais beaucoup de virus respiratoires cèdent le pas, en tout cas dans l'hémisphère nord pendant notre été, pour plutôt aller vers l'hémisphère sud, dans les zones tempérées.
Les Français auraient-ils accepté et respecté un confinement à la chinoise ? Je vais vous interroger, vous, Frédéric Lemaître, qui êtes français en Chine.
Je crois qu'ils sont en train de découvrir ce que c'est. Et il y a un mois, je vous aurais répondu non, et là, je suis beaucoup plus prudent.
En envoyant des masques et du matériel médical, la Chine se positionne-t-elle en gestionnaire unique de la crise ?
C'est l'image qu'elle veut essayer de montrer, mais manifestement, on voit de plus en plus que cette volonté de propagande est très critiquée et que donc ça ne marche pas, parce que justement la Chine va souvent trop loin dans ses efforts de propagande et que donc ça, on met ça en doute. C'est ce qu'elle espère faire. Et je voudrais juste ajouter un point sur la question précédente. La Chine met beaucoup en avant l'esprit civique qui serait caractéristique des Asiatiques et notamment des Chinois. Je ne suis pas certaine que cet esprit civique soit absent de nos sociétés. On le voit, les gens respectent correctement les choses sans être, entre guillemets, surveillés de très près. Et par ailleurs, je m'interroge sur l'esprit civique d'un système politique qui est prêt à vraiment traiter sa population de telle manière sans information et causer des dommages qui sont absolument considérables, sans parler de ceux qui n'hésitent pas à fabriquer des choses défectueuses et qui sont dangereuses pour la population chinoise y compris. Donc,
cette crise sanitaire peut-elle entraîner une révolution en Chine ?
C'est peut-être non, encore une fois, pour le moment, on ne voit pas les prémices d'une révolution en Chine. Les questions qui se posent, c'est l'image de Xi Jinping, y compris au sein du Parti communiste, parce que je pense que certains, y compris au sein du Parti communiste chinois, évidemment, se posent des questions sur la meilleure manière de gérer les choses pour l'image de la Chine aussi, qui est
très
dégradée.
Pourquoi est-il critiqué, du coup ?
Eh ben, tout simplement, tout ce choix, par exemple, très autoritaire du confinement, une propagande très, très forte. Et si jamais, effectivement, il y avait une deuxième vague et que rien n'était résolu, c'est la direction. Comme tout est personnalisé autour de Xi Jinping, on avait même voulu en Chine lancer une campagne de remerciement pour Xi Jinping à Wuhan, ce qui a causé un tel scandale que ça a été immédiatement arrêté. Il n'y aura pas de révolution, mais le mécontentement, indéniablement, ce qu'on en sait, il faudrait voir avec Frédéric Lemaître à Pékin, mais ce qu'on en sait sur le peu qui passe dans les réseaux sociaux est très très profond, notamment dans les classes moyennes, qui était une des bases de soutien principales du
système. Alors, je donne la parole à Frédéric Lemaître.
Les gens ne sont pas forcément ravis de la façon dont la crise a été gérée et continue de l'être. Mais plus l'Occident a des difficultés, notamment l'Europe et les États-Unis, à gérer cette crise, plus la comparaison va être favorable à la Chine.
Vous vouliez dire un mot parce qu'il y avait une révolution, très
vite. Il faudrait qu'il y ait le retour en arrière, qu'il y ait 15 ans de croissance économique disparue, et donc une crise économique sans précédent. Mais là, pour le moment, non, parce que, et ce n'est pas Xi Jinping, c'est que le système tient.
La Chine semble tirer actuellement profit de l'épidémie, mais si après la crise, la globalisation régresse, ne serait-elle pas perdante ? C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Oui, effectivement, si le reste du monde réalise, et notamment les pays les plus développés, que notre intérêt, c'est aussi de développer les régions qui sont les plus proches des nôtres, notamment en Afrique, comme on en parlait tout à l'heure. Le Mexique aussi, on reparle de réindustrialiser. Un des gros problèmes au Mexique, c'est le fait qu'énormément d'industries, comme en Tunisie, par exemple, textiles, étaient parties vers la Chine. Si on les réintroduit, et on en parle, y compris aux États-Unis, eh bien tout ceci pour avoir des effets très bénéfiques.
A-t-on les moyens de se fâcher avec la Chine qui entend nous aider ? C'est Sébastien dans le Calvados qui nous pose cette question. On entendait la secrétaire d'État aux affaires européennes un peu sévère à l'endroit de la propagande chinoise. Est-ce qu'on a les moyens de se fâcher avec la Chine ?
Aujourd'hui, pas vraiment, puisqu'on a besoin de ces masques. Et donc, effectivement, Valérie Niquet parlait de l'embargo, mais on ne peut pas cracher sur quelqu'un qui nous apporte quelque chose dont on a besoin dans l'urgence. Donc, peut-être qu'il sera temps de voir qui est responsable, comment ça s'est passé. C'est pas le moment. C'est pas le moment, parce que pour l'instant, on a besoin de coopérer avec la Chine et on a un besoin vital de ces masques.
Et d'ailleurs, même Donald Trump souffle à son habitude le chaud et le froid en disant tout le bien qu'il pense de Xi Jinping, avec lequel il a de bons échanges.
Oui, parce qu'un coup, il parle à ses électeurs et un coup, il parle à son interlocuteur.
Cette stratégie de la Chine est-elle destinée à diviser l'Europe, à votre avis ?
Pas besoin.
Si. Enfin, je veux dire, ça va dans la lignée de ces grands formats comme 17+1 où la Chine essayait de tirer à elle l'Europe centrale, orientale et l'Europe du Sud. Bon, je suis pas certaine que cette stratégie de division, encore une fois, on a plutôt l'impression qu'il y a une sorte de réveil européen. Il y a eu des discours très puissants, y compris au niveau européen, face à la, la propagande, entre guillemets, mise en place par Pékin.
Ce marasme ne prouve-t-il pas que nous devons retrouver notre autonomie dans beaucoup de domaines ? Dans le domaine de la santé, des médicaments, des masques, des blouses, sans doute, Antoine Flao, on a compris qu'il fallait qu'on soit un peu plus indépendant.
Je crois que 90% de nos médicaments sont fabriqués en Chine, y compris les génériques indiens. Les génériques indiens sont fabriqués en Chine. Donc, on a besoin, pour les médicaments essentiels, de plus d'indépendance, oui.
Allez, une dernière question, pas très optimiste, mais quand même. Si la crise actuelle perdure, un conflit mondial est-il à craindre ?
Oui, enfin, on peut toujours le craindre, mais non, effectivement, il y aura une misère, peut-être beaucoup plus, une crise économique beaucoup plus grave, selon la fin. Mais ça ne va pas se terminer en guerre mondiale, parce qu'il n'y a pas les raisons pour cela, pour le moment.
Pour l'instant, c'est une guerre sanitaire contre économique contre un seul et même ennemi. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.